Juliette Rangeval.
Romania, Bulgaria. Romania, Bulgaria.
Bonjour, Accent d'Europe vous emmène en Bulgarie à 11 jours des élections européennes avec Frédéric Lebel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous revenez d'un reportage dans ce pays qui a rejoint l'UE en 2007. Nous sommes aux confins de l'Union européenne. À l'époque, le désir d'adhésion était très fort. Est-ce qu'aujourd'hui, Frédéric, les Bulgares attendent toujours quelque chose de l'Europe?
Oui, bien sûr, la Bulgarie a énormément bénéficié de l'Europe depuis 2007, grâce notamment au fonds de cohésion. Mais le pays attend encore plus de l'UE, notamment la possibilité de rentrer dans l'espace Schengen, cet espace de libre circulation totale, qui serait, selon Sofia, la juste récompense pour les efforts fournis pour protéger la frontière extérieure de l'Europe. Et puis, malgré la crise des dettes souveraines, la Bulgarie souhaite toujours aussi rejoindre la zone euro. Mais tout cela dépend des conclusions du rapport de surveillance qui a été mis en place en 2007 pour vérifier que la Bulgarie et la Roumanie font bien des progrès attendus en matière de réforme de la justice et de lutte contre la corruption. C'est loin d'être gagné, comme on aura l'occasion de le voir au cours de l'émission.
Vous vous êtes rendu à Plovdiv, c'est la capitale européenne de la culture 2019, et c'est là que se trouve le plus grand ghetto rom d'Europe, le quartier le plus pauvre dans un des pays les plus pauvres du continent.
Oui, on compte 50 000 habitants à Stolypinovo, quartier déshérité s'il en est, au pied des grandes barres d'Ekati de l'époque communiste. On trouve des montagnes de déchets et dans le petit marché de boutique, les carrioles croisent les grosses cylindrées sur la rue principale. Mais le dimanche où je m'y suis rendue, il faisait beau et quelques adultes avaient élu domicile sur des chaises en plastique autour d'un barbecue. L'Europe, un drôle de mot qui déclenche vite quelques réactions de colère.
On n'a pas d'argent, on n'a rien ici, on vit dans la misère. J'ai une retraite de 50 euros, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux pas payer mes charges, je peux pas faire des courses, on peut rien faire avec.
Mais pour les plus jeunes, l'Europe, c'est la chance de pouvoir partir. Quelques mois, régulièrement, pour des contrats de soudure près de Paris, raconte l'un. C'est toujours mieux qu'en Bulgarie, répond une autre.
À l'étranger, c'est bien parce qu'on nous paie bien, alors qu'ici, les salaires, ils sont minables. Avec 250 euros par mois, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas éduquer nos enfants, et maintenant, ils font passer une loi pour supprimer les allocations familiales si les enfants ne vont pas à l'école. C'est 20 euros les allocations, on ne peut rien faire avec ça.
En Bulgarie, le chômage touche 50% de la communauté rom. À Stolypinovo, on parle de 90%. Hassan prend son café du matin devant une boutique de robes de mariée. Son frère Clément vit en France avec ses 3 enfants. Et sa fille aînée est partie s'installer à Duisbourg, en Allemagne, avec son mari et sa petite fille.
Bien sûr, c'est très difficile pour moi et ma femme. On parle tous les soirs à ma fille sur Messenger. Et à chaque fois, ma femme pleure parce qu'elle ne voit pas sa petite fille grandir. La vie est compliquée. Ma fille a dû partir. C'est comme ça. La Bulgarie est membre de l'Europe, mais c'est juste une apparence. Parce que rien ici n'est européen. Qu'il s'agisse de la discrimination, des salaires ou de l'éducation, il n'y a rien du standard européen ici.
Hassan n'est pas le moins bien loti de la communauté. Il a une petite échoppe où l'on vend de tout, des cigarettes, des conserves ou de la quincaillerie. Il ira voter aux élections européennes pour le parti de la minorité turque, la formation qui le représente le mieux, explique-t-il. L'Europe, c'est un objectif lointain pour améliorer l'éducation, l'économie, bref, tout ce qui ne marche pas chez lui. Mais qu'on ne lui parle pas des millions qui ont été dépensés pour Plovdiv, capitale européenne de la culture, c'est juste une blague.
Non, ça nous apporte vraiment rien. On voit rien ici. Tous les projets autour de la capitale européenne de la culture visent à enrichir les politiques et les gens qui sont au pouvoir. La Bulgarie est un des pays les plus corrompus au monde. Je ne sais pas s'il y a un pays qui est plus corrompu que le nôtre.
Comme Hassan, tout le monde ici a un frère, une fille ou un oncle parti à Londres, Tottenham, Duisbourg ou Paris. Les expatriés envoient de l'argent à la famille et il y a ceux plus rares qui partent étudier comme Sando, 21 ans aujourd'hui.
J'ai quitté ce pays en 2009. Je suis parti, je savais rien, je ne pouvais pas du tout parler anglais. Donc ça a été vraiment dur pour moi au début. J'allais à l'école à 5 minutes de la maison. Je voulais revenir ici, mais ça aurait été la pire erreur de ma vie. Mais je suis resté. Je n'avais pas d'amis, je m'enfermais toute la journée dans ma chambre pour étudier l'anglais. Mes potes ici, ils me disaient que j'étais fou. Mais maintenant, je parle mieux qu'eux. C'est pourquoi je dis, travailler dur, ça paie toujours.
Selon les statistiques officielles, seuls 0,3% des Roms poursuivent des études universitaires en Bulgarie. Sando, lui, va commencer des études d'informatique dans le quartier d'Holborn, à Londres, en septembre prochain. Le Brexit n'inquiète pas Sando. Il a un passeport britannique. Le Royaume-Uni, symbole paradoxal d'une Europe qui a répondu à tous ses rêves d'intégration.
Et on vous retrouve, Frédéric, dans le studio d'Accent d'Europe pour parler des élections européennes du 26 mai. Si les habitants de Stolypinovo ne devraient pas se déplacer en masse pour voter, on rappelle que la Bulgarie reste un pays très europhile, hein, bon élève de l'UE, épargné par la vague d'euroscepticisme qui touche par exemple la Pologne ou la Hongrie. Et pourtant, Frédéric, la campagne prend une drôle de tournure avec cet énorme scandale qui secoue en ce moment la classe politique et une série de démissions dans le parti de la majorité.
Oui, un gros scandale qui touche de plein fouet le parti Gerbe au pouvoir. Imaginez le bras droit du Premier ministre, mais aussi la ministre de la Justice, puis hier le ministre de l'Agriculture obligé de démissionner et le chef du comité anticorruption lui-même prié de se mettre en congé. Tout cela pour des appartements achetés à prix bradé ou des fraudes aux aides européennes de la politique agricole commune. La Bulgarie, qui est un bon élève européen, rappelons-le, s'il y avait cet énorme bémol pour les affaires de corruption, pour une fois suivi de démission, a-t-on envie de dire. Et c'est en substance ce que nous dit Maria Gabriel, commissaire européenne, tête de liste Gerbe pour ces européennes, qui a l'art de retourner l'argument.
Qui d'autre a démissionné? Parce que ces doutes-là ne concernent pas seulement le gouvernement en place, la commission en place. Il y a dans d'autres partis politiques. Vous avez vu les démissionner? Donc ça montre aussi que quelque part, au niveau européen, on a besoin peut-être de procédures plus claires, plus rapides et plus efficaces. On est pour un contrôle parce qu'on est conscient de ce que les fonds européens nous ont donné.
Frédéric, est-ce que des infox, des fake news peuvent influencer la campagne?
Eh bien, j'ai posé la question à Sergei Stanichev du Parti Socialiste Bulgare, lui demandant s'il fallait s'inquiéter d'une désinformation en provenance de la Russie sur des questions importantes régionalement, comme le conflit ukrainien ou l'annexion de la Crimée. Et j'ai obtenu cette réponse.
Il faut vraiment prendre en compte le passé, l'histoire de chaque pays. C'est ce que je dis toujours à mes collègues d'Europe de l'Ouest. Parce que si vous considérez l'histoire des pays baltes ou de la Pologne, ils sont en conflit avec la Russie depuis des siècles. Ils ont été occupés par les soviétiques. Mais pour mon pays, c'est le contraire. On a été libérés grâce aux Russes au XIXe siècle, après 5 siècles de domination turque. C'est pour ça que notre attitude vis-à-vis de la Russie est différente et ne changera pas. C'est dans notre ADN.
Qu'elles soient pilotées par Moscou ou pas, les fake news ont tout de même eu un impact majeur. Frédéric, on l'a vu, puisque l'an dernier, la Convention d'Istanbul sur la prévention des violences faites aux femmes n'a pas pu être signée.
Oui, on se heurte ici au pouvoir incontournable des fake news, un sujet qui passionne la candidate Maria Gabriel, qui est aussi commissaire européenne chargée de l'économie et de la société numérique et qui, à ce titre, a mis en place un certain nombre de mesures. On l'écoute.
Jusqu'au mois de mai, chaque mois, les plateformes font un rapport. Qu'est-ce qu'ils font par rapport au contenu sponsorisé? Qu'est-ce qu'ils font par rapport aux fake accounts? Qu'est-ce qu'ils font par rapport aux bots? Et commencent à nous arriver les premières données, et c'est très intéressant. Quand vous voyez que Google enlève en janvier 46 000 faux comptes, et quand il nous donne le tableau par rapport au pays, le premier, le UK, ça ne vous fait pas penser à quelque chose que nous sommes en train tous de vivre? Donc, on continuera à suivre ça. En même temps, ce n'est pas que la responsabilité des plateformes, c'est très clair. Je parle beaucoup et je crois beaucoup à l'éducation aux médias. Enfin, troisième chose, on voudrait avoir un réseau européen indépendant de fact-checkers. Ce sont ces signaleurs de confiance qui peuvent en quelques minutes nous dire qu'une information c'est une fake news, pour qu'on puisse faire face ensemble.
Mais ce qui est étonnant, c'est que les fake news ne conduisent pas à cet euroscepticisme qu'on voit émerger dans de nombreux pays européens.
Oui, mais les deux candidats disent attention, et cela peut être un argument de poids, attention, l'euroscepticisme pourrait bien aussi toucher la Bulgarie, car le pays ne fait toujours pas partie de l'espace Schengen qui garantit la libre circulation, on l'a dit, et ce, malgré ses efforts pour bien protéger sa frontière extérieure, et c'est injuste, nous dit Maria Gabriel.
On attend d'Europe qu'elle n'applique pas plusieurs catégories par rapport aux citoyens, qu'elle ne fasse pas deux poids, deux mesures. Une fois que les règles sont remplies, ces mêmes règles doivent être valables pour tous. Ce n'est pas le cas encore pour la Bulgarie concernant Schengen.
Et puis sur d'autres sujets comme le paquet mobilité, cette nouvelle législation sur les travailleurs détachés dans le transport routier, le socialiste Sergueï Stanitchev déplore que les pays de l'Est de l'Europe, dont la Bulgarie, n'aient pas été correctement traités.
Dans ce paquet, il faut distinguer deux réformes contradictoires. D'un côté, la protection sociale des chauffeurs routiers, mais de l'autre, et c'est inacceptable, une réforme pour interdire l'accès au marché européen des transports à nos pays. Parce que, expliquez-moi pourquoi un camion devrait rentrer dans son pays toutes les 4 semaines. C'est quoi la mesure sociale ici? Le camion, c'est une machine, c'est vraiment ce genre de décision imposée sans dialogue qui favorise l'euroscepticisme.
Et on l'aura compris de la part d'un politique qui se présente comme un Européen convaincu, l'euroscepticisme est vraiment au coin de la rue.
Autre indicateur inquiétant, Frédéric, le pays est tombé à la 111e place sur 180 dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. À Sofia, vous avez pu visiter les locaux de Free Europe. À partir de 1950, Radio Free Europe, la radio financée par les États-Unis, émettait depuis Munich en ondes courtes vers l'Europe de l'Est pour contrer la propagande russe. Aujourd'hui, après 14 ans d'absence, le média est de retour en Bulgarie et c'est désormais un site financé par le Congrès américain.
Rien n'annonce sur la façade de l'immeuble que Radio Free Europe est de retour à Sofia depuis le 21 janvier. Au premier étage, Tatiana Vaxberg dirige une rédaction de 7 jeunes journalistes. Free Europe n'est plus une radio, mais un site avec des podcasts et des vidéos en ligne et un état d'esprit, le retour aux fondamentaux.
On ne fait pas de commentaires, on présente des actualités. On s'est rendu compte que ce qui manquait en Bulgarie, c'était l'information. Et ce qui était discrédité aussi, c'était l'information.
Ce matin-là, ces conférences de rédaction autour du scandale de la semaine, l'Apartment Gate, comme on l'appelle, des appartements de luxe bradés à des prix dérisoires, avec à la clé la démission de la ministre de la Justice, du numéro 2 du GERB, le parti au pouvoir, sans oublier le chef du comité anticorruption lui-même, prié de se mettre en congé après avoir oublié de déclarer une terrasse de 180 mètres carrés avec pergola et sauna. Sur la vidéo en ligne de Free Europe, il refuse de s'expliquer. Polina Paunova est une des journalistes qui a sorti l'affaire, des révélations qui n'ont pas forcément intéressé ses collègues des autres médias.
Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération de journalistes qui ne posent pas de questions durant les conférences de presse. Zvetanov, le numéro 2 de GERB, qui est impliqué dans le scandale de l'Apartment Gate, a donné une conférence d'1h30 et les confrères et consoeurs lui ont juste demandé comment il se sentait, s'il allait bien. Personne ne lui a posé de questions désagréables sur sa propriété. C'est un problème pour le journalisme.
Un énième scandale pour corruption, c'est presque trop banal dans ce pays, explique sa rédactrice en chef. Mais cette fois, le pouvoir tremble un peu et ça c'est nouveau.
La différence avec ce qui s'est passé maintenant avec la Radio Free Europe, c'est qu'il y a eu des conséquences. Avant ça, il n'y avait pas de réaction. Alors si vous me demandez comment j'explique tout ça, moi j'expliquerai ça tout bêtement. C'est un média étranger qui fait ça et ça fait peur. On ne fait rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est la réaction.
Pourquoi les quelques sites et titres de la presse indépendante n'arrivent-ils pas à se faire entendre? Tout d'abord parce que l'essentiel des médias est entre les mains d'un seul homme, l'oligarque Delian Peevski. Un de ses proches vient d'ailleurs d'être nommé à la tête de la télévision publique.
Prévod в эфир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Dans son podcast hebdomadaire, Polina Paonova s'attache aux faits, rien qu'aux faits. Pour cette journaliste, la servilité des journalistes est aussi encouragée par les effets pervers des aides européennes.
L'autre grand problème qu'on a en Bulgarie, ce sont les fonds européens pour la presse. C'est le gouvernement qui répartit ces fonds aux médias. Un média obtient de l'argent pour populariser auprès de ses auditeurs un programme européen. Mais la conséquence, c'est qu'il arrête aussi de critiquer le gouvernement.
Difficile de faire entendre des informations dérangeantes pour le pouvoir, difficile aussi de contrer les fausses informations. La dernière infox massive concerne la Convention d'Istanbul, qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. Le texte n'a pas été signé par le gouvernement bulgare, car il a fait l'objet d'une campagne de désinformation ahurissante qui prétendait que la Convention voulait introduire le troisième sexe. Le débat était alors devenu impossible. Tatiana Waxberg.
Aujourd'hui, vous n'entendrez personne vous parler du troisième sexe. Mais on vous dira la menace de la Convention d'Istanbul. Et si vous posez la question, mais la menace, c'est en quoi la menace? Elle est en quoi la menace? Vous n'aurez pas la réponse précise. Parce que tout ça, c'est déjà entré dans la tête des gens depuis presque un an.
Autant de théories relayées sur le net, mais aussi dans des livres offerts en supplément avec les plus grands journaux bulgares. Théorie du complot toujours, avec bien sûr l'ennemi préféré des populistes, le milliardaire américain George Soros en toile de fond.
C'est un livre d'une centaine de pages et qui raconte l'histoire d'une certaine opposition formée de personnalités qui existent dans la réalité, mais dont la biographie est complètement inventée. Et ils étaient attaqués pour avoir été des agents de Soros, donc ils étaient appelés des Sorosiens, qui incarnaient les intérêts de l'Amérique et de l'Europe de l'Ouest.
Et c'était signé par qui ce livre ?
Il n'était pas signé.
Dans son bureau, le professeur et ancien président du Conseil des médias électroniques, Georgi Lozanov, observe désabuser cette nouvelle guerre hybride entre l'Est et l'Ouest.
Lorsque les fake news ont une portée géopolitique, comme dans l'affaire de la Convention d'Istanbul, on appelle ça une guerre hybride. C'est une guerre non conventionnelle. Dans ce cas, on a présenté la problématique de la manière suivante. L'Occident était un lieu pervers où on essayait d'imposer des orientations sexuelles déviantes, et celui qui portait les valeurs traditionnelles et orthodoxes, c'était Poutine.
Une nouvelle guerre froide, des fondamentaux que connaît bien Radio Free Europe, qui entame une deuxième vie médiatique.
Frédéric Lebel à Sofia, la capitale bulgare, où l'on retrouve à présent notre correspondant Damien Vodenitcharov. Bonjour Damien.
Bonjour.
L'Europe forteresse face aux migrants. La Bulgarie est à la frontière extérieure de l'UE, c'est une grande responsabilité, mais pendant la crise migratoire, est-ce qu'elle est devenue une passoire, comme on l'a entendu dire?
En 2015, au plus fort de la crise migratoire, la Bulgarie a construit un mur à la frontière avec la Turquie. Il s'étend sur toute la frontière terrestre entre les deux pays, soit 230 kilomètres. Il ne s'agit pas uniquement des fameux rouleaux en lame de rasoir, mais aussi de matériel sophistiqué de contrôle de la frontière. L'addition est salée pour les contribuables bulgares et européens, mais le gouvernement estime que ce dispositif est un succès et qui lui a permis de maîtriser l'afflux de migrants. Après tout, il y a aujourd'hui 10 fois moins de migrants depuis que la frontière est verrouillée. Ils étaient plus de 30 000 en 2015, mais moins de 3 000 en 2018.
Et est-ce que cette diminution, Damien, elle est due à la construction du mur ou plutôt au pacte Union européenne-Turquie ?
Pour l'opposition, c'est le pacte UE-Turquie qui a mis fin à l'afflux de migrants et le mur est plutôt la cible de critiques. Elena Yoncheva, qui est à la tête de la liste du Parti Socialiste, montre dans un documentaire que le mur est facile à franchir à l'aide d'une simple échelle. Elle dénonce la corruption et les défauts de construction du mur. Lorsqu'ils arrivent en Bulgarie, en faisant une demande d'asile officielle, les réfugiés sont installés dans des centres de rétention ouverts. Une fois le droit d'asile obtenu, ils sont libres de quitter le pays et de partir à l'ouest. La grande majorité a quitté le pays pour s'installer en Allemagne.
Damien Vodenitcharov à Sofia pour Accent d'Europe. Accent d'Europe, en partenariat avec le Parlement européen, vous retrouvez l'Europe en vrai, 6 idées reçues sur l'Europe, décryptées, une web-série animée sur notre site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À la réalisation Françoise Grelot, à bientôt.
RFI.